Bonjour, Église de Marguerite. J'espère que vous allez bien. Normalement, j'avais lancé déjà le super, excellent. Alors, moi, je vais poursuivre sur ce qui a été chanté et sur tout ce qui a été dit ce matin. Et quand tu prenais le texte de l'Exode, Joël, ça m'a fait penser à un autre verset, toujours dans l'Exode, où pendant qu'ils fêtent la Pâque, c'est en Exode, il est où ? Voilà, c'est ce verset-là. C'est pendant qu'ils s'apprêtaient à sortir et qu'ils fêtaient la Pâque avant de sortir d'Égypte, il y a Dieu qui dit au peuple, peut-être que tes enfants ils te demanderont, maman, papa, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela ? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. C'est la réponse qu'on donnait aux enfants. Quand on s'apprêtait à fêter la Pâque, eh bien Dieu disait, dites à vos enfants par sa main puissante. Il y a vraiment cette notion de puissance et puis de délivrance dont tu parlais, Joël, dans cette lecture et qui est importante pour Pâques. Mais pour en parler ce matin, je ne vais pas retourner en Égypte. On va remonter le temps de 7 siècles avant Jésus. Donc c'est beaucoup plus récent. Relativement plus récent. À cette époque, le royaume d'Israël vient d'être attaqué. Voilà. Quelques petites photos d'époque. Israël vient d'être attaqué. Babylone, la terrible, vient de frapper. Babylone qui attaque. Et Babylone domine le monde entier, si je puis dire, en tout cas tout ce bassin-là. Et comme ça se faisait à l'époque, on déportait une partie de la population en exil. Donc il faut s'imaginer que ça devait être terrible. Et la population vaincue restait avec ses ruines et quelques rescapés. Si bien que les survivants se sont demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça allait tellement vite cette guerre !» C'est le rouleau compresseur. Babylone écrase complètement Jérusalem, les murailles. Et on se demande ce qui se passe. Et là où l'intrigue devient passionnante, là où on est vraiment au cœur du sujet, c'est que le temple lui-même a été détruit. La maison de Dieu a été ravagée. Alors, comme on l'a dit ce matin, comme tu l'as dit, Xavier, tu l'as rappelé pour l'offrande, on voit ce que ça fait Notre-Dame dans une culture chrétienne, dans un pays de culture chrétienne, avec l'enracinement, l'histoire, ce que ça nous fait à nous. Il faut s'imaginer à Jérusalem le temple détruit. L'effroi dans les cœurs, des cœurs meurtris. Parce que si le temple est détruit, il n'y a plus d'accès à Dieu, logiquement. Comment on fait pour lui rendre un culte ? Comment on fait pour lui apporter des sacrifices pour le pardon ? Et comment Dieu va-t-il régner sur son peuple s'il n'a plus de trône digne de ce nom ? C'est des questions qu'on se posait à l'époque. Il n'a plus de trône. Le temple est détruit. Comment peut-il régner sur son peuple ? Et la question sous-jacente, c'était, est-ce que Dieu a abandonné son peuple ? Est-ce que Dieu a fait ses valises ? Il ne peut plus s'asseoir sur ce trône, comment il va faire ? Alors, dans cette douleur, Ésaïe a bien conscience que Israël y est pour quelque chose. L'idolâtrie, l'injustice, la corruption, ils ne se voilent pas la face. Pourtant, si le temple était magnifique, un magnifique édifice, si le cœur des enfants de Dieu n'est pas à la bonne place, eh bien Dieu va le laisser être détruit et ravagé. Donc le temple est détruit. Il n'y a plus de trône pour que Dieu puisse siéger à Jérusalem. Et la question c'est comment on va faire ? Il n'y a plus droit à Jérusalem. Il n'y a plus droit sur le monde. Où est Dieu ? Sa maison est détruite. Où est sa présence sur terre ? Comment on va faire ? C'était la question qui se posait. Et puis, si Dieu devait revenir, comment va-t-il s'y prendre pour remonter sur son trône ? Comment il va faire pour remonter sur son trône s'il est détruit, s'il n'y a plus de temple ? C'était la question qu'on se posait. Et je pose la question du comment parce qu'elle est essentielle dans le message de Pâques. Comment Dieu va-t-il faire pour remonter sur son trône à Jérusalem et pour régner sur Israël et sur le monde? Et à cette question, il faut s'imaginer Ésaïe au milieu des décombres de Jérusalem, les murailles dévastées, la ville en cendres, les gens dans l'effroi, dans les pleurs. Eh bien, Ésaïe va voir quelque chose. Il va avoir une vision. Dans le prophétique, il va apercevoir quelque chose. Et cette vision est restée intacte aujourd'hui. C'est ça qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il va apercevoir? Sur les murailles de Jérusalem, il aperçoit des sentinelles qui regardent au loin l'horizon. On scrute. Mais qu'est-ce qu'on peut bien regarder au loin? Qu'est-ce que les sentinelles regardaient au loin? Sinon, peut-être, le retour du roi. Il n'y avait que ça à espérer. Est-ce qu'il va revenir? De quel côté il va revenir? Comment Dieu va-t-il siéger à nouveau à Jérusalem? Et si on espère son retour, eh bien on place des sentinelles et on espère. On prie et on espère qu'il puisse revenir. Et le rôle des sentinelles, il est fondamental. Lors d'un stage de commandement dans l'armée, on m'avait confié une équipe, et je devais amener l'équipe quelque part, et on m'avait dit « place des sentinelles ». Alors j'ai placé une sentinelle un peu plus loin, mais il s'est endormi, il était crevé. Et je vous dis que quand c'est le cas, vous passez pour un peintre, vous êtes sourd et aveugle, il ne répond plus à la radio, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien. On passe vraiment pour un peintre, on ne sait pas ce qui se passe. Là, dans cette vision, bon, les sentinelles d'Ésaïe sont bien réveillées, elles sont bien caféinées, elles sont bien attentives à ce qui se passe. Et elles vont voir quelque chose. Et Ésaïe va écrire ces versets magnifiques. Il va dire ceci. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il faut s'imaginer dans les... à Jérusalem dévastée. Voilà ce que les sentinelles voient, voilà ce qu'il entend. La voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles exultent ensemble avec chant de triomphe, car elles verront face à face quand l'Éternel restaurera Sion, éclater de joie, exulter ensemble le lieu désert de Jérusalem. Voilà, dans cette ville dévastée, les sentinelles voient quelque chose. Elles voient quelqu'un qui court de montagne en montagne et qui annonce de bonnes nouvelles. Viendra un jour où le roi reviendra régner sur Israël. Et il est dit de ce serviteur qui court sur les montagnes, ce verset magnifique, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Il y a quelqu'un qui va revenir à Jérusalem, il va dire des choses extraordinaires qu'on n'a jamais entendues. Des choses extraordinaires qu'on n'a jamais entendues. Pourtant, Ésaïe va dire quelque chose d'assez étonnant, d'assez stupéfiant. Parce que si Israël a été détruit et si le temple est en ruine, il dit que celui qui va remonter sur le trône, au lieu de faire comme tout bon roi, c'est-à-dire d'opprimer ses ennemis et de prendre le pouvoir par la force, parce que dans ce monde, ça fonctionne comme ça, parce que dans ce monde, il y a toujours un gagnant et un perdant, eh bien, le roi des Juifs reviendra à Jérusalem, mais c'est lui-même qui va souffrir et mourir. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans une Jérusalem dévastée, voilà ce qu'on peut entendre. Voilà le cri des sentinelles. On attendait quelqu'un qui reviendrait, mais pas comme on l'imaginait. Pas comme les rois de ce monde. Alors, à l'époque, ça semblait étrange. Le roi va revenir régner sur Jérusalem, mais il va souffrir, il va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire ? 8 siècles plus tard, un homme arrive à Jérusalem. Une Jérusalem dominée par les Romains. Et cet homme va déclarer une bonne nouvelle, celle du règne de Dieu. Et cet homme a guéri énormément de gens. Il a délivré beaucoup de monde, si bien que tous les livres de la terre ne suffiraient à contenir ces livres. Cet homme s'appelle Jésus. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alors ce serviteur Jésus va à Jérusalem et il dit que le règne de Dieu est proche. C'est assez étonnant. Il dit, ça y est, la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée. Le règne de Dieu revient en terre d'Israël, à Jérusalem. Mais comme disait Ésaïe, la façon dont il va reprendre son trône est à l'opposé de ce qu'on attendrait. On se disait qu'il prendrait les armes et qu'il dominerait sur ses ennemis, parce que dans ce monde, c'est comme ça qu'on prend un trône. On opprime ses ennemis et on monte pour régner. Pourtant, Jésus va se laisser être torturé, frappé, humilié, il va mourir. Et c'est de cette façon qu'il sera appelé roi des Juifs. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors il rassemble toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, ils lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Drôle d'intronisation. Salut, roi des Juifs. Il est revenu. Qui pouvait s'attendre à ça, sinon la vision d'Ésaïe ? Alors dans toute l'histoire de l'humanité, je l'ai dit et je le répète, quand les rois prennent le pouvoir, il y a un gagnant et un perdant, on oppresse son ennemi et on règne. Jésus est le seul roi qui monte sur son trône en donnant sa vie pour nous, qui sont tous ennemis de lui. Et la question que je pose, c'est si le roi de notre royaume monte sur le trône en mourant sur la croix, qu'est-ce que ça nous dit du royaume à venir ? Qu'est-ce que ça nous dit du royaume à venir ? Et c'est la question, pourquoi fallait-il que ce serviteur souffre ? Pourquoi fallait-il que Jésus meure et que 3 jours après sa mort, il ressuscite. Pourquoi fallait-il qu'il meure ainsi ? Parce que la mort de Jésus consiste à l'anéantissement du royaume de la mort et du péché. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que à la croix, Jésus a révélé que les royaumes de ce monde ne sont pas bons. Qu'ils oppressent, qu'ils font du mal. Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. En fait, ce que ça nous dit ici, c'est que c'est le bien qui triomphe du mal. Et sa résurrection, parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est Si Jésus anéantit le royaume de l'ennemi, qu'est-ce qu'il y a à la place? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, sa résurrection, ce n'est pas juste la mort, ce n'est pas juste la victoire sur la mort, c'est l'inauguration d'un nouveau royaume. Pâques, c'est la mort de Jésus en croix, mais c'est l'inauguration, l'établissement d'un nouveau royaume. C'est ce qu'on attendait à Jérusalem du temps d'Ésaïe. Il règne quand? Comment ça se passe? Jésus vient, il remonte sur le trône, il meurt, il souffre, et il remonte ainsi sur ce royaume. C'est pour ça qu'on peut dire avec Ésaïe cette phrase, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Il a démontré publiquement que le mal a perdu face au bien, et la façon dont il revient sur son trône en souffrant et en mourant montre en réalité que dans ce royaume, tout est inversé. Tout est inversé. Depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité a rejeté Dieu, c'est l'homme puissant qui oppresse le faible. Et c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Les coups sont donnés, la violence est terrible. Et c'est le plus fort selon ce monde qui gagne. Et on a tous souffert de ce système. Alors pour remonter sur le trône et pour vaincre ce royaume, Jésus a choisi de le faire par le bien, en tendant la main à son ennemi, en aidant son oppresseur, en servant. C'est pour ça qu'à la Pâque, il lavera les pieds de ses disciples. Dieu ne tire pas avantage de ses ennemis dans leur malheur, mais il leur tend la main. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs avant, ce qui a été dit, je ne sais plus qui a dit ça, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un gagnant et un perdant. C'est du gagnant-gagnant. C'est ça qui est magnifique à la Pâque. C'est du gagnant-gagnant. Et c'est la gloire de ce royaume. Aussi, le règne de Dieu est présent quand le faible est secouru. Dieu est présent dans son temple quand nous aidons ceux qui sont faibles et opprimés. Et nous sommes tous ici des personnes qui avons besoin de lui. Et j'ai trouvé deux versets qui parlent de ça, parce que Pâques, c'est le Dieu serviteur. Pâques, c'est Dieu qui vient vers nous, qui nous aide, qui nous tend la main et qui meurt pour nous. Il y a deux versets, je trouve, assez beaux de circonstances. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Quand Dieu vient aider l'orphelin, la veuve, l'opprimé, celui qui est faible, Dieu est dans sa demeure et il règne. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est tellement important pour Dieu d'aider les opprimés, d'aider ceux qui ont besoin de lui. C'est au centre de ce message de la Pâque. Il délivre un peuple et il délivre le monde. Mais il ne remonte pas sur son trône n'importe comment. Il ne le fait pas en faisant de nous des perdants, mais il nous tend la main pour dire « Tu peux gagner avec moi ». La croix, c'est soit tu gagnes avec moi, soit tu perds seul. Je ne veux pas gagner à ton dépens. Aussi, Jésus nous donne sa vie. Il nous pardonne de toutes nos fautes. Et si nous avons confiance, si on croit que cette façon de remonter sur le trône nous donne la vie éternelle, si on croit que ça nous donne le pardon, alors nous serons sauvés. C'est tout. C'est fou, hein, comme message. Si on croit que le roi revient régner sur son trône et qu'en le faisant, il nous donne la vie éternelle parce qu'on croit qu'il est mort pour nous, à notre place, pour nos fautes, alors nous serons sauvés. Alors soyons comme ces sentinelles. Je crois que c'est ce qu'on a fait ce matin. On va entrevoir cette résurrection encore, revivre ce moment-là encore, d'un Dieu qui cherche à gagner avec le monde, pas contre le monde. Il a offert sa vie afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ça commence par franchir les portes de ce royaume, parce que l'enjeu, c'est le règne de Dieu à Jérusalem, en Israël et puis sur le monde. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut connaître ce Dieu-là. Il faut connaître ce Dieu qui tend la main. Il faut connaître cette grâce, cet amour, cette paix. C'est extraordinaire. Un Dieu qui remonte sur son trône en se laissant mourir, en donnant sa vie pour nous. Et il a vaincu la mort. Le bien a triomphé du mal. Il n'y a rien qui a pu arrêter ça parce que c'est le seul système qui gagne. Voilà ce que j'avais à cœur de partager ce matin. Pâques, c'est une délivrance. Pâques, c'est l'instauration et l'établissement d'un nouveau royaume dans lequel nous sommes déjà. On est déjà dans ce royaume. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Avant de partager la Sainte-Seine, j'aimerais juste prier. Seigneur, nous sommes témoins que tu règnes sur ton trône. Nous sommes témoins que sur ce trône, tu nous fais asseoir avec toi. Tu nous donnes la vie éternelle, le pardon et la paix. Seigneur, tu t'es interposé entre nous et l'ennemi comme un héros qui sauve. Et tu as pris le coup à notre place. Tu as pris nos fautes à notre place. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon merci? Merci. Et ce royaume qui s'offre à nous, Seigneur, c'est une porte d'entrée, on veut l'expérimenter. Renouvelle notre intelligence, renouvelle nos pensées, Seigneur. On veut vivre selon ce royaume. On veut voir le monde selon ton royaume. On veut tendre la main aux faibles et à l'opprimé. On veut te glorifier, Seigneur. Parce que c'est par ta main puissante que tu sauves ton peuple. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous qui sommes dans des situations difficiles, Seigneur. Tu es le Dieu de la délivrance. C'est le thème central de ta parole. Et comme tu l'as dit, Jésus, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Merci, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort. Tu es glorieux. Amen. On va prendre la Sainte-Seine. Et juste avant de la prendre, je me suis juste rappelé d'une chose, une question que je vous pose. Vous savez, on n'est pas catholique, mais chez les protestants, la Sainte-Seine est un sacrement. Et un sacrement, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu nous a laissé pour expérimenter sa grâce, pour produire en nous sa grâce. Alors c'est mystérieux, hein, mais c'est vrai. Par un geste, par quelque chose de prophétique, on s'approprie la présence de Dieu autrement. Et mystérieusement, par la foi, cela fait agir la grâce en nous. Et c'est pour ça que c'est important de poser ce temps. Et pour ce faire, je vais lire en Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et il poursuit en disant, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le royaume est central dans ce sacrement de la Sainte-Seine. Alors je dirais juste que la croix, c'est la preuve par l'exemple que le bien l'a emporté sur le mal. C'est la preuve que le mal a voulu engloutir Jésus par la mort, mais que faire le bien l'emporte toujours. La mort a été engloutie par la victoire. Alors, la question que je pose ce matin, c'est qu'est-ce qu'on va prendre dans nos mains avec ce pain et ce vin? Qu'est-ce qu'on a dans nos mains? Si ce n'est la promesse de la présence de Dieu, la promesse que oui, le roi est revenu régner à Jérusalem et sur le monde. Alors, question, de quoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Et alors que nous prenons la Sainte-Cène, posons-nous la question centrale à Pâques, une question glorieuse. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Seigneur, on peut prendre ce pain et ce vin dans la reconnaissance de ce que tu as fait. Il n'est plus raisonnable d'avoir peur. Il n'est plus raisonnable de craindre quoi que ce soit. Tu as vaincu la mort. Nous vivons dans le royaume. Sois glorifié, Jésus. Amen.